Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Paul Bénédicte Bolou.
Il est 12h, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de ce vendredi 29 novembre. Élections en Côte d'Ivoire, le COSELSI alerte sur la faible mobilisation et les incidents lors de la révision des listes électorales. C'était au cours d'une conférence de presse tenue hier jeudi à Abidjan. Célébration de l'inclusion, lancement des filets sociaux productifs au Palais de la Culture à Abidjan-Trècheville hier jeudi, où anciens et nouveaux bénéficiaires se sont réunis pour célébrer cette avancée significative. Hors de nos frontières, le Tchad annonce rompre ses accords de coopération de défense avec la France quelques heures à peine après la visite au Tchad du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Et puis l'invité de la rédaction, professeur Bomba Abdoulaye, spécialiste des relations internationales, en toute fin d'édition, se prononcera sur les mandats d'arrêt de la CPI et le conflit au Proche-Orient. Il sera interrogé par Jean-Claude Mabéa. Voilà pour l'essentiel. À l'ouverture de ce journal, nous vous rapportons les conclusions du consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire, COSELSI. Lors d'une conférence de presse tenue hier jeudi à Abidjan, le porte-parole du COSELSI a évoqué la faible mobilisation et des incidents survenus durant la révision de la liste électorale qui s'est déroulée du 19 octobre au 17 novembre 2024. Drissa Soulama se prononce sur les perspectives de cette organisation.
Le non-déploiement des autorités judiciaires pour organiser les audiences foraines a constitué un frein majeur, en particulier dans les zones rurales. Le COSELSI a recensé 211 incidents critiques, notamment dus à des retards d'ouverture des centres d'enrôlement, des délocalisations de centres d'enrôlement sans information préalable, des dysfonctionnements techniques au niveau des tablettes biométriques, des difficultés d'accessibilité pour les personnes en mobilité réduite. La radiation des personnes décédées reste largement insuffisante. En ce qui concerne les activités en ligne, l'analyse révèle une polarisation marquée de débats, des accusations de fraude, notamment l'inscription de noms nationaux, des convoyages d'électeurs, la polarisation accrue autour de la réinscription de l'ancien président Laurent Gbagbo. Dès janvier 2025, le consortium lancera un programme d'observation à long terme en préparation des élections présidentielles d'octobre 2025. Sur la base des observations recueillies, le COSELSI publiera des communiqués de presse réguliers pour faire le point et alerter sur les risques et conflits potentiels. Par ailleurs, dès la publication de la liste électorale provisoire issue de la RLE 2024, le COSELSI procédera à son analyse informatisée afin de vérifier la fiabilité du fichier électoral et du processus dans son ensemble.
Drissa Soulama, porte-parole du consortium des organisations de la société civile pour des élections en Côte d'Ivoire. À Abidjan se tient la 11e conférence des instances de régulation de la communication en Afrique. Du 28 au 30 novembre, les experts se penchent sur un sujet crucial, la régulation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la communication audiovisuelle et numérique. Restez avec nous pour découvrir les enjeux et les perspectives de cette rencontre continentale. Tout de suite, le point de Jean-Mélène Bitti.
L'IA est au centre de la 11e conférence des instances de régulation de la communication en Afrique, RIAC. Maître René Bourgoin, président de la ACA, futur président du RIAC, a souligné l'importance de ce thème.
Ce thème, pour tenir compte des évolutions technologiques, l'intelligence artificielle générative dans le domaine de la communication audiovisuelle, recèle de gros avantages, mais également des risques de désinformation avec les deepfakes. C'est un danger absolu pour la démocratie. Parce qu'on peut faire dire à quelqu'un tout ce qu'on veut avec des mots diffamatoires.
Latifa Arkabach, présidente de la ACA du Maroc et présidente en exercice, a abordé les efforts pour réduire les risques liés à l'IA.
Nous plaidons pour qu'il y ait un encadrement juridique de l'intelligence artificielle pour circonscrire les risques de désinformation.
Olivier Mestre, président de l'autorité de régulation de France, a salué les compétences de René Bourgoin.
Je connais ses grandes qualités, je suis sûr qu'elle permettront au RIAR de progresser vers un espace numérique intègre et de confiance.
Amadou Koulibaly, ministre de la Communication représentant le Premier ministre, a expliqué les attentes du gouvernement pour cette conférence.
Les propositions sur l'encadrement de l'utilisation de l'IA que vous allez adopter est fortement attendue. Cette esquisse servira de base à l'adoption d'un cadre juridique approprié de la régulation de l'IA dans le secteur de la communication audiovisuelle.
L'événement de trois jours réunissant près de 26 pays africains comprendra de nombreux panels et communications.
À Gbablasso, un village de la sous-préfecture de Biankouma, l'équipe projet PGDEC 3 du conseil régional du Tonkpi a récemment mené une mission de travail. L'objectif, faire le point sur les avancées et les défis rencontrés par les bénéficiaires des sous-projets d'activités génératrices de revenus et d'associations villageoises d'épargne et de crédit. Les précisions de Stéphane Adams, notre correspondant dans la région.
Ces appuis apportés aux jeunes vivant en milieu rural par le conseil régional du Tonkpi connaissent des avancées notables. Cependant, quelques bénéficiaires éprouvent des difficultés.
Mon projet, c'est achat des bananes. Je n'ai pas encore mes papiers. Parce que j'ai un problème des papiers. Quand je vais aller ouvrir mon compte. Merci au conseil régional du Tonkpi. Merci à la Banque mondiale.
Pakouya Aurélien, j'ai ouvert mon compte à la COPEC de Biankouma. L'élevage du port, j'attends le financement du projet. J'ai dit merci au conseil régional et son président Mab. Merci aussi à la Banque mondiale.
L'agent du cabinet d'appui au développement communautaire du volet appui à la mise en œuvre des activités génératrices des revenus ou moyennes et petites entreprises du Tonkpi, Djebidje Ruffin, ne s'est pas fait prier pour relever ceci.
Pour le village de Gbablasso, en fait, c'est plus au niveau du manque d'engouement des jeunes. Les jeunes sont vraiment démotivés. Les jeunes Yakuba, je dirais, sont vraiment démotivés par rapport au projet. C'est un peu le souci majeur que je pourrais relever à ce niveau-là. Il ne faudrait pas que, à la longue, ça soit objet de litige entre les jeunes Yakuba et les autres qui résident dans le village de Gbablasso. Voilà, déjà dit au président du comité de gestion des plaintes, de déjà commencer à relever les risques qui pourraient mettre à mal la réussite du projet, mettre tout en œuvre pour la réussite du projet.
Rappelons que le projet emploi jeunes et développement des compétences est prioritairement destiné à l'appui des jeunes vivant en milieu rural. Stéphane Adams, de retour de Gbablasso, Radio de la Paix.
Au Palais de la Culture d'Abidjan, Trècheville, s'est tenue hier jeudi, nous le disions en titre, la cérémonie de lancement du projet des filets sociaux productifs marquant l'intégration de 25 000 nouveaux ménages aux 432 000 anciens bénéficiaires. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a présenté les acquis de ce programme depuis son lancement en 2017. Découvrons les détails de cette initiative qui vise à améliorer le quotidien des ménages avec Jean-Claude Mabéa.
La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a fait le point du projet filet socio-productif de 2017 à ce jour. Miss Belmonde Dogo.
De 2017 à ce jour, 432 000 ménages ont été touchés pour un montant cumulé de plus de 148 milliards redistribués. En 2024, 205 ménages continuent de recevoir ces transferts monétaires après les sorties progressives des premières cohortes bénéficiaires. Le lancement des 25 000 nouveaux ménages ce jour consacre le passage de 205 000 à 230 000 ménages actifs. Cela veut dire que tous les trois mois, c'est un investissement de plus de 8 milliards qui va vers le porte-monnaie de nombreuses familles.
À sa suite, le ministre du Commerce et de l'Industrie a exhorté les nouveaux bénéficiaires du projet socio-productif Souleymane Diarasouba.
Je voudrais donc à mon tour, au nom de Monsieur le Premier ministre, vous inviter à vous approprier ce programme par un bon usage des allocations trimestrielles de 36 000 francs que vous percevrez.
Voici quelques témoignages d'anciens bénéficiaires après réception d'attestations de bonnes pratiques.
Aujourd'hui, grâce à Filo Sociaux, ma vie a changé. Mon fils s'épanouit. Moi-même, je m'épanouis. J'arrive à payer ma maison, je paye mon courant, mon eau.
Bon, avant, ça n'allait pas trop plus qu'on a des enfants. Et quand le projet est venu, ça nous a apporté plus. Il y a eu un changement. Ça fait que bon, l'attente, l'harmonie est revenue à la maison. Ça va, ça va.
La visite des stands des bénéficiaires a mis un terme à cette cérémonie.
C'est aussi l'actualité. Le séminaire international de l'ASCAD prend fin aujourd'hui, vendredi, à l'amphithéâtre Adama Diawara de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Depuis le mercredi, une dizaine d'experts venus du Bénin, du Burkina Faso, du Nigeria, des États-Unis et de la Côte d'Ivoire se penchent sur les cultures endogènes et l'éducation en Afrique. Ils partagent leurs réflexions en vue de proposer des solutions sur l'impact des cultures locales sur le système éducatif. Avec César Yao, découvrons les temps forts de cet événement.
Le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, le professeur Akengbo, à l'ouverture de ce séminaire, a estimé que c'est dans une réflexion commune que l'on peut transformer la diversité des cultures en moteur d'un progrès durable et inclusif.
L'histoire nous enseigne que les civilisations qui prospèrent sont celles qui savent puiser dans leurs racines pour s'adapter aux défis de leur temps.
Face aux nombreux experts, le président du comité scientifique, le professeur Pierre Kipri, s'est posé trois questions essentielles dont les réponses aideront à inventer un nouveau modèle d'éducation en Afrique.
Première question, qui sait ? Deuxième question, qui décide de ce qu'il faut savoir ? Troisième question, qui décide de qui décide quoi savoir ? Et l'avenir des cultures endogènes de l'Afrique dépendra des réponses que nous donnerons à ces trois questions à travers nos institutions éducatives. Il dépendra aussi de notre capacité à relever le défi des changements dans le monde tout en préservant et en renforçant le patrimoine endogène susceptible de maintenir la cohésion de notre société pour qu'elle soit un nous collectif et viable. Sur ces bases qui permettent d'inventer un nouveau modèle d'éducation, quels sont les points clés du futur système et de la renaissance culturelle?
Ce séminaire international qui prend fin vendredi débattra également des présences africaines et des diasporas dans la culture universelle.
Autre chose à présent, le centre d'excellence WAVE, Central and West African Virus Epidemiology, a organisé une journée dédiée à la presse au pôle scientifique et d'innovation Félix Houphouët-Boigny de Bingerville. Objectif de cette rencontre, créer un cadre d'échange pour mieux faire connaître le rôle et les missions de WAVE, qui est spécialisé dans la détection, l'identification et la caractérisation des agents pathogènes de plantes pour une surveillance sanitaire. Le directeur exécutif, professeur Justin Pita, partage les enjeux de cette collaboration.
Il était important que nous ayons ce rendez-vous entre la recherche et la communication, plus précisément WAVE Research, pour que nous puissions vous dire ce que nous faisons. Vous savez, les plantes peuvent être malades. Et quand la plante est malade, la plante peut mourir comme l'homme. Et quand une plante meurt, on ne l'a plus. Si c'est une plante alimentaire, c'est encore plus grave. Et donc, il est important que nous fassions beaucoup de sensibilisation et que nous puissions avoir l'adhésion des décideurs politiques pour nous aider à travailler sur la santé des plantes, à faire de la santé des plantes un pilier primordial du développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons démontré qu'il y a un virus qui détruit la récolte de manioc de 90 à 100%, qui est en train de venir de l'est de l'Afrique, actuellement en Afrique centrale. Il est aux portes de l'Afrique de l'Ouest, ce virus. En plus de ce virus, nous venons de découvrir un autre virus aussi dévastateur en Guinée. La Côte d'Ivoire, particulièrement, est en sandwich entre ces deux menaces. L'un de ces virus fait une destruction de la récolte de 90 à 100%. L'autre fait une destruction de 20 à 70%. Imaginez quand les deux se rencontrent, c'est 100%. Si nous ne sommes pas proactifs, nous risquons d'avoir des problèmes de sécurité alimentaire parce que nous connaissons l'importance du manioc dans notre alimentation en Côte d'Ivoire.
Professeur Justin Pita, directeur exécutif du Centre d'excellence WAVE, logé au sein du pôle scientifique et d'innovation Félix Houphouët-Boigny de Bingerville. En page internationale, le Tchad a annoncé la résiliation de son accord de coopération en matière de défense avec la France, signé en 2019. Cette décision a été communiquée par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abdourahmane Koulamala, quelques heures après le départ du ministre français Jean-Noël Barrot de son pays. Bien que le Tchad souhaite évoluer, il souhaite que la France demeure un partenaire essentiel. Le gouvernement tchadien assure que les modalités de résiliation, y compris le délai de préavis, seront respectées. Il insiste également sur le fait que cette décision ne remet pas en question les relations historiques entre les deux pays et se dit ouvert à un dialogue constructif pour de nouvelles formes de partenariat. Dans une lettre adressée au président sénégalais, Emmanuel Macron a reconnu le massacre des tirailleurs africains survenu le 1er décembre 1944 à Tiaroy, près de Dakar. Cet événement tragique où des soldats ont été tués par les forces coloniales françaises alors qu'ils réclamaient le paiement de leur arriéré de solde a fait l'objet de débats sur le nombre de victimes estimées par certains historiens à plusieurs centaines. Cette reconnaissance formulée pour la première fois dans un courrier officiel intervient avant les cérémonies commémoratives au Sénégal. Macron a souligné l'importance d'établir les faits et a rappelé un travail collaboratif avec les historiens. Diomaye Faye a salué cette démarche comme un pas consistant vers la vérité et la réconciliation, marquant un moment significatif dans les relations entre la France et le Sénégal. Avec l'invité de la rédaction, professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste des relations internationales, nous plaçons aujourd'hui un éclairage sur des enjeux internationaux. Il s'agit avec lui de faire une analyse des récents mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre du premier ministre israélien, de son ancien ministre de la Défense, ainsi que du chef du Hamas en lien avec leur implication dans le conflit au Proche-Orient. Dans cet entretien, professeur Bamba Abdoulaye est interrogé par Jean-Claude Mabéa.
Professeur Bamba Abdoulaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des relations internationales.
Oui.
Et on sait que la Cour pénale internationale a récemment émis des mandats d'arrêt contre des figures majeures du conflit au Proche-Orient. Je veux parler du premier ministre israélien, de son ministre de la Défense et le chef du Hamas. Quels sont précisément les chefs d'accusation retenus par la CPI contre ces trois dirigeants et sur quelle base juridique repose-t-il?
Alors, vous savez que après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, Israël, en représailles, s'est lancé dans une dynamique de riposte qui a été considérée comme disproportionnée par les uns, entraînant plus de 43 000 morts. Et parmi ces morts, on note beaucoup d'enfants et de femmes. Et cela a donné des images très tristes qu'on a pu voir sur les médias. Et donc, l'ampleur et l'atrocité des dégâts causés par la riposte israélienne a amené la CPI à se saisir des dossiers. Et donc à estimer que tant du côté d'Israël que du côté du Hamas, il y a donc des responsabilités à situer et c'est ce qui explique donc les décisions de la CPI.
Ces mandats d'arrêt interviennent dans un contexte de guerre intense et de violation des droits humains signalés de part et d'autre. Pensez-vous que, professeur, cette décision de la CPI peut réellement freiner les violences ou au contraire exacerber les tensions?
Alors, beaucoup ont jubilé, mais je pense qu'il faut savoir raison garder, analyser froidement la situation. Israël n'est pas membre de la CPI. Son allié principal, les États-Unis, qui l'ont toujours protégé, qui ont toujours défendu ses intérêts, ne sont pas membres de la CPI. Donc, naturellement, on se demande comment cette décision pourrait être appliquée, notamment pour ce qui concerne le premier ministre israélien. Mais politiquement, on peut l'analyser autrement. On dit que les lignes ont commencé à bouger, la peur a commencé à changer de camp et que désormais la communauté internationale comprend qu'Israël n'est pas ce pays qui peut se permettre de faire tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Mais juridiquement, je crains fort que cette décision ne puisse porter. Même si Benjamin Netanyahu devait se déplacer, il va toujours bénéficier du soutien des États-Unis.
Professeur, sur le plan diplomatique, ces mandats risquent de diviser davantage la communauté internationale. Quelle pourrait être la réaction des puissances mondiales, notamment les États-Unis, l'Union européenne et les pays du Moyen-Orient face à ces accusations?
L'Union européenne a annoncé officiellement qu'il fallait appliquer la décision. Mais vous savez, l'Union européenne reste également l'un des soutiens majeurs d'Israël. Donc je crains que ce ne soit que de l'hypocrisie diplomatique. C'est peut-être au Moyen-Orient que l'émotion va prendre le dessus sur la réalité. Ils auront l'impression peut-être que l'Occident veut les suivre, mais en réalité, c'est juste diplomatique et politique. Mais pour l'essentiel, Israël va bénéficier du soutien des États-Unis, qui, je vous le rappelle, n'est pas non plus membre de la CPI. Et donc, je crains fort que des pays qui dépendent des États-Unis puissent appuyer cette décision. Par contre, du côté de la Russie et de la Chine, peut-être, alors que Netanyahou est rarement là-bas, ils peuvent peut-être analyser la situation autrement, parce que pouvoir résister au courroux des États-Unis. Mais pour les autres, ça va être difficile. Juridiquement, je ne pense pas que cela puisse être appliqué. pour l'instant en tout cas.
Concernant les populations civiles, elles subissent depuis des décennies les effets de ce conflit. Est-ce que cette décision de la CPI peut offrir un espoir de justice pour les victimes ou risque-t-elle d'être perçue comme une démarche politique sans réel impact?
Même si l'espoir fait vivre, je crains fort que cette décision n'ait pas vraiment d'impact. Ce que les populations attendent, c'est l'arrêt des massacres. C'est l'aide humanitaire, c'est la réhabilitation de la dignité de l'être humain qui a été touché dans cette zone. C'est ça qui est vraiment aujourd'hui la préoccupation majeure. Les autres éléments diplomatiques, politiques, sont loin des attentes de la population qui, elle, ne demande qu'une chose, vivre en paix. On arrête les tueries et qu'elles soient réhabilitées.
Professeur Bamba Aboulaye, juridiquement parlant, ces mandats posent des défis énormes. Extradition, mise en œuvre des procès, voire des blocages diplomatiques. Selon vous, quelles sont les chances réelles que ces mandats d'arrêt aboutissent à des procès?
D'abord, il faut savoir que la CPI qui a pris cette décision n'a pas de force qui puisse contraindre les autres armées ou les autres pays à lui envoyer Benjamin Netanyahu. Ça, c'est le premier élément. Même si la CPI est liée directement à l'ONU, même là encore, beaucoup de pays membres de l'ONU vont subir une pression de la part des États-Unis. C'est pour donc vous dire que, en amont comme en aval, cette décision-là a une portée politique, a une portée peut-être diplomatique et même en termes de communication, mais sur le plan juridique, dès que je crains fort que sa portée ne soit si conscrite à des effets d'annonce.
Professeur, pour conclure, que faudrait-il, selon vous, pour qu'une solution durable et équitable puisse émerger dans cette région du monde où le droit semble toujours être rattrapé donc par la force?
Je dirais qu'il faut que les radicaux laissent la place aux modérés. Il faut que le droit international soit appliqué. Et beaucoup de voix se lèvent pour envisager la création de deux États qui vont vivre de façon pacifique. Moi, j'adhère à cette solution, cette guerre qui n'a plus trop duré.
Professeur Bamba Aboulaye, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et bonne journée.
À vous, pardon.
Professeur Bamba Aboulaye, spécialiste des relations internationales, invité de la rédaction, répondait aux questions de Jean-Claude Mabéa. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Élection en Côte d'Ivoire, le COSELSI alerte sur une faible mobilisation et des incidents lors de la révision des listes électorales. C'était au cours d'une conférence de presse tenue hier jeudi à Abidjan. Élection, célébration de l'inclusion, lancement des filets sociaux productifs au Palais de la Culture Abidjan-Trècheville hier jeudi, où anciens et nouveaux bénéficiaires se sont réunis pour célébrer cette avancée significative. Fin de ce journal, je serai des vôtres à 15h pour le Flash. L'information continue avec la revue de presse présentée par Ghislain Koulibaly.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, l'actualité ivoirienne s'articule autour de plusieurs faits marquants. D'abord, des tensions au sein du PDCI-RDA. Le mandat nous informe de la convocation de Jean-Louis Billon, député de Dabakala.